Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé un bon été. En tout cas, on vous souhaite une excellente rentrée. La rentrée également talk show aujourd'hui. Notre premier invité de la saison, il est journaliste politologue. Il a écrit de nombreux ouvrages et fait de nombreux documentaires sur la mouvance islamiste et djihadiste. Et il a sorti un dernier ouvrage, Hamas, plongé au cœur du groupe terroriste aux éditions du Rocher. Notre invité aujourd'hui, Mohamed Sifavi. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. On va commencer par le début. Ce livre-là sur le Hamas, c'était une idée d'avant le 7 octobre ou ça a été après?
Écrire un livre sur le Hamas, c'était un projet que je voulais réaliser il y a bien longtemps. Malheureusement, les autres organisations terroristes, Al-Qaïda d'abord, ensuite Daesh, ont totalement saturé l'information et l'actualité ces dernières années et donc se sont un peu imposés dans le paysage médiatique européen. Et à chaque fois, ce projet, je le remettais à une date ultérieure. Et lorsque a eu lieu le 7 octobre, j'ai décidé de réaliser ce projet, d'autant plus que je voyais qu'il y avait une réelle méconnaissance de la réalité de ce groupe terroriste. J'observais des échanges qu'il y avait dans des débats télévisés et qui montraient que véritablement il y avait un décryptage qui s'imposait pour essayer d'apporter des éléments, tous les éléments qui permettent ou qui permettraient aux uns et aux autres de se faire une opinion, je dirais, beaucoup plus fine. Donc dès le 8 octobre, je me suis mis à l'écriture.
Alors, on va revenir sur votre livre, en l'occurrence. Il y a une chose qui m'a étonné, c'est que finalement, la création officielle du Hamas remonte à pas très longtemps, alors qu'on a l'impression que le Hamas existe depuis au moins 60 ans.
Non, c'est ce que je raconte, c'est que le Hamas existe justement depuis très longtemps.
Sa création officielle, en tout cas.
Sa création officielle, c'est 1987.
D'accord, c'est quand même récent.
Oui, c'est récent, mais l'émergence sur la scène des mouvements islamistes contemporains a commencé véritablement à partir de la fin des années 70, début des années 80.
D'accord.
Donc au moment où le Hamas intervient, il est dans l'air du temps, sauf que avant la création du Hamas, il y a eu pendant une vingaine d'années, depuis les années 60, à Gaza, un travail de fond qui a été mené.
On va justement y revenir dans un instant. Mohamed Sifavi, c'est évidemment une grande partie de votre livre. Je voulais qu'on revienne à cette création avec un personnage central qui a été le chef spirituel pendant les années du Hamas, c'est le cheikh Yassine. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur lui?
C'est un émule de la pensée des frères musulmans. Il avait un charisme et une aura dans la bande de Gaza qui lui a permis, d'abord à travers une action sociale, ensuite à travers une action éducative, culturelle, et à travers un activisme qui l'a amené à créer une multitude d'associations, de construire un certain nombre de mosquées, d'investir énormément le champ de l'aide sociale, à faire agglutiner autour de lui toute la jeunesse, ou une grande partie de la jeunesse de Gaza, notamment la jeunesse des camps de réfugiés, dont lui-même était issu. Et à partir de là, année après l'autre, utilisant à la fois le contexte local et le contexte international, il a construit un discours qui a séduit évidemment toute une génération, et ce jusqu'aux années 80. Il a écarté doctement, notamment à Gaza, l'influence de l'autorité, l'autorité palestinienne, c'est-à-dire l'OLP et le Fatah, et finalement, la création officielle du Hamas a eu lieu en 1987, au moment même du début de la première intifada.
Alors, on va revenir, Mohamed Sifavi, sur le sujet de votre livre. Vous prenez comme trame, le traité du Hamas. Juste avant, Il y a quelque chose qui m'a étonné dans votre livre, c'est que quand vous parlez du Hamas, vous parlez d'une organisation très bien structurée, très bien cloisonnée. On a l'impression que le Hamas, en fait, est un mouvement, au départ, à l'extérieur, extrêmement, on veut dire extrêmement vide, mais vous, vous démontrez le contraire.
Je pense que ceux qui pensent que le Hamas est une organisation vide disent une approximation qui est très éloignée de la réalité. Le Hamas est une organisation qui est au contraire très bien structurée, où il y a une partie qui est visible, une autre partie invisible, une partie politique, une partie militaire, une partie, je dirais, idéologique, chargée du recrutement, du prosélytisme, une partie chargée de la propagande. C'est la raison pour laquelle le narratif du Hamas aujourd'hui a atteint aussi bien les confins de l'Afrique du Sud que ceux de l'Amérique latine, que le narratif du Hamas et la propagande du Hamas atteint y compris les quartiers populaires des pays européens. C'est parce que justement le Hamas a développé à la fois une diplomatie, une industrie militaire, enfin tout ça au fil du temps, évidemment en plus de 40 ans. La Russie a créé une véritable administration, a géré les universités de Gaza, à étendre son influence à l'étranger, à ériger des entreprises, notamment du bâtiment en Turquie, voire en Allemagne, pour justement capter des financements. Enfin voilà, donc le Hamas est une organisation complexe avec parfois un fonctionnement mafieux. Ils ont développé des contrebandes, ils ont construit ce réseau de tunnels, plus de 500 km de tunnels dans la bande de Gaza. C'est ce qui leur fait avoir cette force stratégique où ils peuvent évidemment cacher jusqu'à 250, voire plus, 250 otages, à avoir des rampes de lancement de missiles, à avoir aussi une capacité à faire face à une puissance militaire comme Israël dans une guerre asymétrique et in fine à imaginer, conceptualiser les attentats et les pogroms du 7 octobre pour atteindre y compris la profondeur géographique de l'État d'Israël et de frapper au cœur même de cet État. Donc le Hamas, c'est de façon très méthodique, structuré dès le départ, à travers ces différentes cases, si j'ose dire. C'est une immense boîte à plusieurs tiroirs, capable de d'agir sur tous les secteurs que je viens d'évoquer.
Alors, Mohamed Sifavi, dans votre livre Plongé au cœur du groupe terroriste, pour vous, le Hamas, c'est clair, c'est une relation terroriste. Il n'y a pas de discussion.
Écoutez, moi, comment dire, je me suis attaché tout simplement à la définition qui est donnée du terrorisme par à la fois les universités ou les instituts d'études politiques. C'est ma formation initiale. Je me suis appuyé sur, même s'il n'y a pas unanimité, sur les conventions internationales, et notamment la convention de 1999 sur le financement du terrorisme qui a été établie par les Nations Unies et qui permet de dire clairement ce qu'est le terrorisme. À ce propos, le terrorisme pour la Convention internationale du financement du terrorisme, je vais vous la citer, c'est tout acte destiné à provoquer la mort ou des blessures corporelles graves à un civil ou à toute autre personne qui ne prend pas part à une part active aux hostilités lorsqu'un tel acte a pour but, par sa nature ou son contexte, d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Voilà la définition claire de ce qu'est le terrorisme aux yeux des conventions internationales. D'accord. Donc je me demande en quoi le comportement du Hamas serait contraire à ce que je viens de vous dire et en quoi quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon trouverait contradictoire cette définition à la fois juridique et philosophique avec les actes du Hamas.
Alors, deuxième point sur lequel je voulais vous interroger avant de revenir à votre livre. En fait, la guerre du Hamas, elle parle souvent d'entités sionistes, mais finalement, elle s'attaque principalement aux Juifs, pas tellement à Israël.
Oui, ben, vous savez, très tôt, la charte du Hamas, qui a été rendue publique en août 1988, a montré l'idéologie, d'abord le caractère totalitaire de cette organisation, mais aussi cette haine du juif, cet antisémitisme qui est clairement affiché, affirmé et assumé. Donc, évidemment que, de façon générale, l'islamisme, je dis bien l'islamisme, c'est-à-dire cette idéologie qui s'exprime au nom de l'islam, contient une forte charge antisémite en son sein, c'est-à-dire dans ses textes, incontestablement, et particulièrement les organisations islamistes palestiniennes, pas seulement le Hamas, mais aussi le djihad islamique, ont toutes les deux, en tant qu'organisation, un substrat idéologique qui est fortement antisémite. Donc, d'autant plus que les deux organisations sont intimement liées au Mollah iranien, qui est, comme nous le savons, dès l'avènement de la révolution iranienne en 1979, ont considéré Israël, je cite, comme le petit Satan, et ont déployé un certain nombre de discours et d'idéologies antisémites. Donc, de ce point de vue-là, il y a une cohérence, j'allais dire presque logique, dans le comportement du Hamas et dans cette détestation du juif en tant que juif et cet appel incessant non pas à construire deux États côte à côte mais à détruire littéralement l'État d'Israël qu'ils appellent effectivement l'entité sioniste.
Alors dans votre livre Mohamed Sifawi, vous parlez de la charte du Hamas, acte fondateur de ce mouvement. En quelques mots, vous pouvez nous la résumer pour dire de quoi on parle dans cette charte.
Je pense qu'il n'était pas possible d'écrire un livre sur le Hamas sans consacrer un chapitre entier au décryptage de cette fameuse charte qui, comme je vous le disais, est véritablement le substrat idéologique de cette organisation. Pour la résumer, c'est, je dirais, en quelques mots. D'abord, elle montre les caractéristiques ou l'ADN, encore une fois, du Hamas, sur plusieurs dimensions. D'abord, une dimension islamiste incontestable. Ce que recherche le Hamas, c'est l'édification d'une théocratie. Ensuite, ce qu'on a déjà abordé, la haine du juif, un antisémitisme totalement assumé, avec en ligne de mire une volonté de détruire l'État d'Israël. Mais plus largement, pour d'ailleurs, ceux qui pensent que ce n'est qu'une organisation qui agit localement, le Hamas a très tôt montré qu'il adhérait ou qu'il s'intégrait dans un combat global mené par la mouvance islamiste contre les démocraties. Et là aussi, la charte du Hamas fustige les valeurs universelles, la laïcité, les organisations humanistes, le féminisme, etc. Et de ce point de vue-là, il est évident que c'est une organisation totalitaire, c'est encore une fois sa propre charte qui le dit. Et enfin, la question qui se pose aujourd'hui quand il y a certains commentateurs qui disent qu'il faudrait peut-être négocier avec le Hamas pour établir une paix durable. Oui. Alors là, évidemment, l'objectif est louable, mais quelle méconnaissance et quelle naïveté, parce que là aussi, dès le départ, d'une part, le Hamas a dit qu'il ne reconnaîtra jamais l'État d'Israël. D'autre part, le Hamas a très tôt dit qu'il ne prendra pas part aux ce qu'il appelle conférences internationales et donc à tous les processus susceptibles de créer une stabilité et une paix durable dans la région. Et enfin, trois, il a évidemment montré qu'il ne comptait pas s'intégrer dans un combat national, mais véritablement dans un combat beaucoup plus vaste, comme je vous le disais, pour le compte de la mouvance islamiste.
Alors, vous revenez, Mohamed Sifawi, également sur l'aspect financier. Le Hamas est extrêmement riche. Il reçoit des millions et des millions d'euros. Ça, c'est important pour eux.
Absolument, c'est, vous savez, comme on le dit le vieil adage, c'est le nerf de la guerre. Et très tôt, depuis le cheikh Yassine, le Hamas s'est reposé sur d'abord des donateurs palestiniens. Toutes les familles richissimes palestiniennes ont été sollicitées. Ensuite, évidemment, les États du Golfe, ou certains États du Golfe, historiquement, avant que ces financements s'arrêtent, c'était l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, etc. Après, l'Arabie Saoudite a arrêté de les financer, et ainsi que d'autres États du Golfe. Et par la suite, évidemment, ils se sont tournés vers l'Iran. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que simultanément à ces financements étrangers, évidemment sans oublier le Qatar, hein, naturellement, qui a été l'un des principaux financiers du Hamas, mais au-delà de ces financements étrangers, le Hamas a développé localement deux manières de capter l'argent à Gaza. D'abord, un impôt confiscatoire, c'est-à-dire
le zakat.
Oui, couvert par la zakat ou par des dons. Véritablement, la société, les 2 millions de Gazaouis sont soumis à un véritable harcèlement pour qu'ils payent. Et la seconde chose, la contrebande qui a été justement développée, notamment avec l'Égypte et avec, ou grâce à ce fameux corridor ou couloir Philadelphie, comme on l'appelle, qui est devenu aujourd'hui un axe stratégique, à travers lequel il y a eu des centaines de tunnels qui ont été construits au fil des années et qui permettaient de faire rentrer aussi bien des marchandises en contrebande que des armes et des munitions à partir notamment du territoire égyptien. Et avec une autre contrebande maritime, celle-ci, qui était réalisée notamment par l'intermédiaire de pêcheurs gazaouis qui faisait rentrer aussi un certain nombre de choses. Donc, le Hamas s'est arrangé pour justement diversifier ses sources de revenus et de financement et de devenir, in fine, une organisation extrêmement riche dont il est très difficile d'évaluer avec exactitude son patrimoine.
Alors, dans le livre, vous donnez plusieurs fois je dirais, de la passivité des Occidentaux, mais aussi d'Israël, qui, on va dire, a donné donc du moulin au Hamas. Comment vous expliquez cette passivité des Occidentaux face à un mouvement comme le Hamas ?
Alors, je pense qu'il n'y a pas eu que de la passivité, il y a eu effectivement de la passivité. Il y a eu une part de naïveté, il y a eu du cynisme. Le cynisme, pourquoi ? Parce que certains pouvoirs, y compris dans des démocraties, parfois jouent et ont joué historiquement avec l'islamisme, ils l'ont manipulé, etc. Au départ, les Israéliens font les mêmes erreurs que les autres pays occidentaux, c'est-à-dire qu'ils laissent se propager les mouvements islamistes en pensant affaiblir ainsi les mouvements nationalistes qui leur semblaient être beaucoup plus dangereux. Ça, c'était à l'époque de la guerre froide. Après, un certain nombre d'acteurs politiques israéliens, notamment Benjamin Netanyahou, a laissé se propager, cette menace incarnée par le Hamas, notamment, et par le djihad islamique, pour ne jamais, finalement, réaliser des accords ou une paix durable.
Et vous en avez beaucoup contre Benjamin Netanyahou, notamment dans votre livre.
Je ne suis pas le seul, vous savez. Oui, je consacre. Alors, il y a deux choses que je sépare dans mon raisonnement. Il y a d'une part les erreurs stratégiques qui ont été, notamment celles de Benjamin Netanyahou, et il y a aujourd'hui l'actualité, c'est-à-dire la nécessité de mener cette guerre jusqu'au bout, et de ce point de vue, de donner raison à Benjamin Netanyahou quand il met comme objectif de guerre la destruction totale et définitive du Hamas en tant que groupe terroriste paramilitaire. Mais c'est pas nourri par une subjectivité. Pour vous donner un exemple, dans son livre intitulé « La route pour le 7 octobre », paru uniquement en hébreu à ce stade, l'historien israélien Adam Raz à explorer comment Netanyahou, justement, a soutenu l'essor du Hamas tout en affaiblissant le courant nationaliste et surtout l'autorité palestinienne, et en particulier Mahmoud Abbas. Donc, si vous voulez, pendant des années, et cela, je ne suis pas le seul à l'avoir constaté, aujourd'hui, il y a des chercheurs et des historiens très sérieux en Israël, et je vous cite Adam Raz, qui écrit clairement que Netanyahou a sciemment maintenu la division entre Gaza et la Cisjordanie pour rendre toute solution à deux États irréalisable. Et ça, c'est, encore une fois, c'est un historien israélien qui le dit, et il a écrit, il a sorti son livre après que j'ai fait fini le mien. Et donc ce livre-là, qui s'appelle La route pour le 7 octobre, qui m'a été en partie traduit par des amis israéliens, si vous voulez, explique, il y a à peine une semaine, que dès son premier mandat, Netanyahou avait favorisé les factions radicales palestiniennes, et notamment le Hamas, en facilitant notamment l'arrivée de fonds, donc d'argent à Gaza. Et on sait, pour avoir discuté avec plusieurs sources, y compris israéliennes, je sais que ces dernières années, les fonds arrivés à travers Ben-Gourion étaient escortés tout au long du territoire israélien par les services de sécurité israéliens, étaient remis au niveau de la frontière, de la frontière, oui, avec Gaza, oui, à des intermédiaires qui remettaient des millions de dollars au cadre du Hamas. Donc, si vous voulez, c'est malheureusement parfois le cynisme des responsables politiques, et de ce point de vue, Netanyahou a fait preuve d'un cynisme terrible qui a été, quoi qu'on puisse en dire, à l'origine du 7 octobre. Jamais le 7 octobre n'aurait eu lieu si on n'a pas fait cette erreur monumentale que de laisser le Hamas diriger un territoire, tout en disant que le Hamas est une affreuse organisation terroriste, et c'est une affreuse organisation terroriste très dangereuse. On lui a livré une partie des Palestiniens qu'il peut recruter à sa guise. On lui a permis de développer sa propre industrie militaire, et comme je vous le disais, d'avoir ses propres financements, etc.
Alors, avant de clore cette émission, Mohamed Sifawi, dans la fin de votre livre, vous parlez de la solution de l'après-guerre. Donc, vous l'avez dit, d'accord pour que Israël réduise le Hamas, et après ? Et comment on fait ?
Alors, aujourd'hui, je pense que même les Israéliens eux-mêmes n'ont pas une idée précise. La situation est en train de se construire. L'après-guerre, de toute façon, si Israël, il faut aussi le dire aux auditeurs et aux gens, à l'opinion publique, si Israël va jusqu'au bout de son objectif de guerre, la situation, de mon point de vue, ne sera pas totalement stabilisée avant 2026, incontestablement. Même si la guerre, parce que là, la capacité militaire du Hamas est véritablement atteinte, le Hamas est vaincu sur le terrain, militairement. Aujourd'hui, oui, il y a toutes les indications qui disent que le Hamas est véritablement vaincu. Pourquoi le Hamas est vaincu ? Parce que d'abord, beaucoup d'hommes du Hamas ont été tués, les autres sont traqués, la plupart sont dans les tunnels, plus d'un tiers ont été démantelés et détruits, le couloir Philadelphie qui permettait au Hamas de recevoir armes et munitions est totalement contrôlé par l'armée israélienne aujourd'hui, c'est pour ça que le Hamas veut qu'il y ait une négociation et que l'armée se retire du corridor Philadelphie, parce que c'est stratégique pour eux. Or, se retirer aujourd'hui du couloir Philadelphie, c'est sauver le Hamas. Et enfin, le Hamas, c'est aujourd'hui une petite bande autour de Yahya Sinwar et de son frère Mohamed Sinwar qui dirige les quelques milliers d'hommes qui restent.
Le fait d'avoir tué pour nier a été une bonne chose.
Le fait d'éliminer Annier intégrer justement la stratégie de l'après-guerre. Et l'après-guerre, c'est quoi ? c'est il faut absolument décapiter la direction de ce groupe terroriste pour ne pas lui permettre de se resituer sous une forme ou sous une autre au lendemain de la guerre. Il y a une chose qui doit être réparée, une erreur monumentale qui a été commise par les Israéliens, c'est d'avoir permis à cette organisation d'exister, de se renforcer et de... Aujourd'hui, il faut tuer politiquement et militairement cette organisation. Elle restera une idée, parce qu'il y a aussi une idéologie derrière le Hamas, évidemment. On l'a vu. Mais militairement et politiquement, le Hamas ne doit plus être un acteur. Et ça, c'est une action essentielle. Il faut aussi faire beaucoup de pédagogie auprès des opinions publiques pour qu'elles comprennent que c'est une organisation qui n'a absolument rien à envier à Daesh. Et de ce point de vue, le 7 octobre a été la démonstration qui montre que cette organisation n'est pas un acteur fiable et n'est pas un acteur sérieux. Mais bon... Au-delà de ça, puisque pour répondre à votre question, je pense que la prochaine étape sera d'une certaine façon, à travers la communauté internationale et les différents partenaires, faire pression sur l'autorité palestinienne pour qu'elle accepte de se réformer, faire émerger une nouvelle génération, et là, faire en sorte à ce que aussi la bande de Gaza devienne le problème des pays arabes et pas seulement le problème des Israéliens, parce que c'est aussi le problème de l'Égypte, c'est aussi le problème de l'Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que derrière le Hamas et le djihad islamique, il y a un état voyou qui s'appelle l'Iran, qui veut créer et entretenir des proxys, comme on dit, des avatars sur place pour qu'ils puissent parachever cet arc chiite à travers lequel, évidemment, il compte viser d'abord Israël, mais ensuite tous les états de la région. Donc je crois qu'il y aura, pas seulement sur le plan financier, mais une implication directe à la fois des Émirats arabes unis, du Koweït, de Bahreïn et de l'Arabie saoudite. Ensuite, probablement, une nouvelle génération au sein de l'autorité palestinienne, parce que Mahmoud Abbas, aujourd'hui, est totalement démonétisé, et de toute façon, il n'est pas éternel.
Mais vous êtes plutôt optimiste, alors ?
Comment ?
Vous êtes plutôt optimiste ?
Je ne suis pas optimiste, je suis en train, moi vous savez, je regarde la situation, j'observe à partir de données, d'éléments objectifs, en étant le plus froid possible, parce qu'il ne s'agit pas de réagir avec émotion comme s'il s'agissait d'un match de football. Là, il est question, encore une fois, d'essayer de raisonner avec les éléments objectifs.
D'accord.
Les éléments objectifs, c'est que il y a deux possibilités. Il n'y en a pas une trentaine. Il y a deux possibilités. Soit il faudrait remettre en scène l'autorité palestinienne qui serait à la fois, encore une fois, réformée et incarnée par une nouvelle génération. Soit Israël se met dans une situation de guerre jusqu'à ce que il y ait une destruction des uns ou des autres. Mais à ce jeu-là, parce que justement, ça serait faire le jeu des mouvements islamistes. Pourquoi ? Parce que la stratégie qui est mise en place par les mouvements islamistes, à commencer par, encore une fois, le Hezbollah et avec l'accord de l'Iran, c'est de mener une guerre d'usure pour ne plus faire exister Israël, pour ne plus rendre ce pays viable, pour casser son économie, pour démoraliser sa société, pour accentuer les divisions au sein de la société israélienne. Et donc, si vous voulez, eux, ils souhaiteraient entretenir une sorte de statu quo pour tuer Israël, si j'ose dire, à petit feu, et de détruire ce pays de cette façon. Alors oui, je connais les divergences qu'il y a au sein de la société israélienne. Ouais. Il faut véritablement sortir de cette folie et de faire en sorte à ce que ça soit une logique messianique, religieuse, qui ait la main sur la question. Il faut repolitiser le sujet. Le conflit israélo-palestinien doit être repolitisé et il faudrait absolument faire en sorte à ce que justement séparer de toute influence des religieux de part ou d'autre.
D'accord.
Même si les islamistes sont beaucoup plus toxiques que les extrémistes religieux juifs, il n'en demeure pas moins que ces derniers complexifient encore davantage par leurs revendications complètement surréalistes et messianiques le conflit. Donc il faut remettre de la politique là-dedans, et la politique ça voudrait dire essayer de détruire ce qu'il y a d'irrécupérable, c'est-à-dire les organisations toxiques, et je suis le premier à encourager cette démarche, mais je dirais renouer un dialogue avec les gens les plus sérieux chez les Palestiniens et de ce point de vue au sein de l'autorité à représenter les Palestiniens.
Merci Mohamed Sifavi. On rappelle votre livre Hamas, plongé au cœur du groupe terroriste aux éditions du Rocher. À bientôt peut-être. Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup.